Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le pape François demande à toutes les parties prenantes au conflit à Goma de cesser les hostilités pour aider la population civile de cette ville. Dans un message diffusé en direct sur la télévision catholique KTO, le souverain pontife se dit préoccupé par la situation dans l'est de la RDC et promet de continuer à prier pour la paix dans cette région. Le calme règne ce mercredi à Kinshasa après des manifestations hier dans toute la ville contre l'agression rwandaise. La circulation est fluide ce mercredi, même si les écoles sont fermées. Nos reporters ont sillonné la ville. Vous suivrez leur reportage dans ce journal. Benjamin Munege est l'invité de ce journal. Il est le responsable du programme multisectoriel d'aide humanitaire et il va parler de l'abandon par les déplacés de tous les camps érigés autour de Goma à la suite de l'offensive du M23 contre la ville. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal présenté par Noëlla Luzitu-Kabambi. Le pape François se dit préoccupé par la situation dans l'est de la RDC. Dans un message diffusé en direct sur la télévision catholique KTO, le souverain pontife demande à toutes les parties prenantes au conflit de cesser les hostilités pour aider la population civile de Goma. Le pape François dit continuer à prier pour la paix dans l'est de la RDC. On l'écoute dans cet extrait choisi par Vanessa Nkongolo.
J'exprime ma préoccupation pour l'aggravation de la situation sécuritaire au Congo. Je demande à toutes les parties de s'engager pour que les hostilités cessent pour aider la population civile de Goma et que cessent les opérations militaires. Et je suis inquiet je demande que cesse toute forme de violence pour le bien de la population. Et je continue à prier pour la paix, pour la sécurité. Et j'invite les autorités locales ainsi que la communauté internationale à un engagement maximum pour trouver la paix dans ces conflits.
Sur place à Goma, après plusieurs jours d'intenses affrontements entre le M23 soutenu par le Rwanda et les FRDC, un calme relatif s'installe ce mercredi dans la ville. Les détonations d'armes lourdes ont cessé, mais l'incertitude demeure parmi la population. Pendant ce temps, des scènes de pillage continuent d'être signalées et les activités socio-économiques restent paralysées. Grâce à Mzati, nous fait le point.
Depuis mardi soir, les tirs d'armes lourdes ont cessé bien que quelques coups de feu sporadiques aient encore été entendus ce matin dans les quartiers Katindo et Kasika ainsi que dans la journée à Mugunga. Selon les sources locales, la circulation reprend timidement dans la ville. Ce mercredi, quelques véhicules et motos des civils ont été aperçus sur les principales artères. Certains habitants ont profité de cette accalmie pour se rendre au lac Kivu afin de s'approvisionner en eau, mais avec une grande prudence. Cependant, dans les quartiers éloignés du lac, notamment dans la commune de Karisimbi, la peur demeure. La présence des rebelles y est signalée, ce qui empêche de nombreux habitants de se déplacer. Beaucoup préfèrent rester regroupés aux abords des avenues, tentant d'évaluer la situation, rapporte la société civile. Pendant ce temps, les pillages s'intensifient. Sur la route principale, sur l'axe Goma-Sake, au quartier Katindo, des boutiques et commerces ont été vandalisés. Ce phénomène touche également les quartiers Imbi, commune de Goma et Mabanga Sud, dans la commune de Karisimbi. Même certaines ONG ne sont pas épargnées de ces phénomènes. En parallèle, les conditions de vie restent extrêmement précaires. L'électricité, l'eau et l'accès à Internet demeurent coupés à Goma, rendant le quotidien des habitants encore plus difficile.
Du côté des hôpitaux et des autres structures sanitaires de la ville de Goma, la plupart sont débordés par des victimes des combats, à savoir des blessés et des morts. C'est le cas à l'hôpital général de référence de CBK Virunga, où le médecin contacté ce matin par Radio Okapi dit avoir enregistré depuis hier jusqu'aujourd'hui plus de 140 blessés et une trentaine de décès. Il demande aux autorités et aux humanitaires de profiter de cette accalmie pour ravitailler les hôpitaux dont la plupart sont en rupture des médicaments et des autres intrants. Docteur Michael Bolingo et Jean-Pierre Grasse Amzati.
Après 4 jours dans l'hôpital, nous venons d'être relevés ce matin par nos confrères médecins, parce qu'il y avait déjà une petite accalmie. Le bilan d'hier À aujourd'hui, je suis sorti à l'hôpital avec 146 blessés et nous avions enregistré 31 morts. Alors, au cours de la nuit, parce que nous avions un problème d'électricité, ça a été réglé avec un groupe électrogène, nous avions essayé de sauver certaines vies depuis tout ce temps. Quel que soit du côté malade, quel que soit du côté corps soignant, on n'a pas encore reçu même une quelconque aide, soit du gouvernement ou bien des partenaires. Alors à la sortie de l'hôpital, je suis passé par le marché central de Virunga, en descendant vers le centre-ville, en train de voir les mouvements. Ce qu'on peut remarquer, il y a beaucoup de corps. Dans la route Virunga vers le rond-point, j'ai compté au moins 3 corps dans notre hôpital. La morgue a une capacité de 8 chambres. Aujourd'hui, je suis sorti avec 31 morts. On devrait transférer certains malades dans nos hôpitaux, notamment l'hôpital Île Africa. Mais le problème, il n'y a pas moyen de faire circuler l'ambulance.
De leur côté, les acteurs humanitaires présents à Goma alertent la communauté nationale et internationale sur les conditions de vie extrêmement précaires des familles déplacées qui ont trouvé refuge dans différents quartiers de la ville. Benjamin Mounegue, responsable du programme multisectoriel d'aide humanitaire, explique que tous les camps des déplacés érigés autour de Goma ont été abandonnés par les déplacés à la suite de l'offensive du 1-23 contre la ville. Désormais, ces milliers de déplacés survivent dans les familles d'accueil, mais sans eau potable ni nourriture et dans une ville sans électricité. Une situation qui fait craindre une augmentation des cas de décès dans les jours à venir. Benjamin Mounegue s'inquiète de cette crise humanitaire grandissante et appelle à une intervention urgente. Il est joint par Ronéline Tibonera.
Une ville qui a accueilli des milliers de déplacés qui étaient dans les sites de Kanyarutinya, Bouchagala 1, Bouchagala Extension, Roussayo Extension. Nous, en son temps, quand nous travaillions dans chez notre partenaire, on gérait tous ces sites et c'est toute cette population aujourd'hui qui se retrouve dans les familles d'accueil à Goma où il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas à manger. Et donc, ça sera une deuxième guerre, c'est la guerre des famines. Donc, on va commencer à mourir ici comme des cancres là, par manque de nourriture, par manque d'eau. Disons donc que l'eau, c'est la vie. Mais nous n'avons même pas de l'eau. Et si vous aviez remarqué, ça fait 3 ou 4 jours maintenant, la pluie aussi, il ne pleut presque pas pour recueillir même les eaux de pluie. Et les rares qui vont au niveau des lacs, parce que hier, c'est vrai, on a fait un tour au niveau des lacs. On a vu comment les enfants sont en train de se débrouiller pour chercher de l'eau. Nous avons aussi les risques d'enregistrer plusieurs cas de noyage au niveau des lacs à la recherche de l'eau. Et l'eau que nous sommes en train de récupérer au niveau des lacs, comprenez que c'est de l'eau qui n'est pas traitée.
Pendant ce temps, le général-major Évariste Somokakule est désigné par le président de la République comme le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu. Il succède au général-major Peter Chirimwami, décédé après avoir été blessé au front. Le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu prend ses fonctions alors que la ville de Goma, chef-lieu de la province, est sous occupation du M23 appuyé par le Rwanda. Qui est le général Évariste Somokakule? Voici son portrait rédigé par Martial Papimukeba et rendu ici par Jean Gando.
Le général-major Évariste Somo, 50 ans, était un officier chevronné des FRDC. Jusqu'à sa nomination, il occupait les postes de commandant des lacs sud dans le secteur opérationnel Grand Nord au sud de Lubero au Nord Kivu et cumulait les fonctions de commandant de la 31e brigade de réaction rapide, une unité qu'il a mise en place en 2008 sur décision du gouvernement avec l'appui de la Belgique et qui s'est distinguée dans plusieurs opérations contre les groupes armés, notamment le ZADF, le M23 et les rebelles Enyele en Équateur. Il a été commandant du 86e secteur à Goma et Nyiragongo entre 2012 et 2013 lors de la lutte contre le M23 avant d'être affecté à Kindu comme commandant du centre commando. Plus récemment, il a servi comme commandant adjoint du secteur opérationnel nord en charge des opérations et du renseignement militaire en Équateur. Son passé militaire est aussi lié au RCD-KML où il a été aide de camp de Mbusa Nyamwisi puis chef de renseignement militaire de cet ancien mouvement rebelle. Confronté à l'occupation de Goma par le M23 et à l'instabilité persistante dans la région, le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu devra rapidement prendre les commandes et élaborer des stratégies pour restaurer l'autorité de l'État. Son défi majeur reste sans nul doute la sécurisation de la province et la coordination des efforts visant à neutraliser les groupes armés. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Sur le plan diplomatique, notez que le chef de l'État ne participe pas ce mercredi au sommet virtuel des chefs d'État de la Communauté des États d'Afrique de l'Est. Un sommet qui devait avoir lieu à l'initiative du président kényan William Ruto, président en exercice de l'EAC. C'est ce qu'a indiqué ce matin à l'agence congolaise de presse Tina Salama, porte-parole du président Félix Tshisekedi. Pour des raisons d'agenda, le président ne participera pas au sommet rendu visuel de l'EAC, a-t-elle précisé. Le calme règne ce mercredi à Kinshasa après la tension qui a prévalu hier. Sur plusieurs routes, les débris des pneus brûlés ont été enlevés, libérant le passage. La circulation est fluide, mais les véhicules ont été un peu moins nombreux que les autres jours ouvrables. En majorité, les écoles sont restées fermées. À la cité, la majorité des commerces sont rouverts ce mercredi, mais les commerçants disent rester prudents. Dans les commerces victimes des pillages et d'actes de vandalisme hier, c'est plutôt la tristesse pour les travailleurs. Blaise Shindani, Babel Mpongo et Nancy Atambo nous en disent plus dans ce reportage.
La vie reprend petit à petit son cours à Kinshasa, bien que sur les routes, ce n'est pas encore l'affluence habituelle. Les véhicules et motos circulent à nouveau librement. Aux arrêts de bus, les chargeurs et les clients, peu nombreux à se présenter. La circulation est plutôt fluide sur plusieurs artères, loin des bouchons habituels. Les écoles n'ont pas ouvert. Beaucoup de parents ont résolu de laisser leurs enfants à la maison, craignant de vivre ce qui s'était passé hier au centre-ville notamment. Les écoles qui le peuvent ont envoyé des travaux en ligne. Plusieurs entreprises n'ont pas fonctionné, surtout celles se trouvant sur les grandes artères. Si à la cité, la majorité des commerces sont rouverts, ce n'est pas le cas au centre-ville et ceux qui l'ont fait sont sur le qui-vive. Dans les commerces victimes de pillages et d'actes de vandalisme, les agents ont le regard vide, se demandent de quoi sera fait le lendemain.
Pour l'instant, nous sommes renvoyés à la maison. Les manifestants ont cassé notre entreprise. Les autorités sont passées. Elles se sont entretenues avec nos employeurs. Mais nous, les Congolais qui y travaillons, on nous laisse comme ça. On ne nous a même pas identifiés. Avec le coût de la vie actuelle, un parent responsable avec les charges familiales, sans compter l'eau, l'électricité et les loyers à payer, comment on peut vivre en restant à la maison?
Notez que ce mercredi, un groupe de personnes, dont des étudiants de l'ISTA, a manifesté au quartier Bon Marché vers Kinmazière à la Gombe, mais le mouvement a été dispersé par la police.
Des pillages durant les manifestations contre l'agression rwandaise ont eu lieu aussi hier à Kisangani, province de la Tshopo. Les marchands du marché central de la ville dénoncent le vol de leurs marchandises par les manifestants. Les autorités, elles, appellent la population à s'exprimer ou à manifester leur soutien au FRDC dans le strict respect de l'ordre public. Le point avec Jacques Moukonkole.
Les manifestations de colère contre l'agression rwandaise au Congo ont connu des débordements au centre-ville et dans quelques quartiers urbains. Certains manifestants en ont profité pour dévaliser les marchands installés le long des artères au marché central. Témoignage d'une victime. Les pertes sont énormes. Les sacs et les marchandises ont été emportés. Ils ont cassé les étalages. En tout cas, ils ont tout pris. Que deviendrons-nous qu'on restaure la paix à Goma? Le marché est la plus grande unité de production de la mairie de Kisangani. Plusieurs manifestants y ont pénétré avec brutalité. La plupart des marchands s'y sont retirés. Seules les vendeuses de denrées alimentaires ont continué à exposer leurs marchandises. La gérante adjointe du marché central, Yvette Issosonga, dénonce le comportement de certains manifestants.
S'il y aura encore d'autres mouvements, nous demandons aux autorités compétentes de nous envoyer les éléments pour sécuriser le marché. Ce qui s'est passé est vraiment déplorable. Il y a deux de nos perceptrices qui ont été victimes à ça. Comme il n'y a pas de taxation de vignettes, c'est une à gagner pour nous et pour la vie de Kisangani.
Dans ces entrefaites, les installations du PPRD et celles de l'AFC ont été saccagées. Les manifestations de soutien au FRDC doivent se dérouler dans le respect de l'ordre public, déclarent les autorités urbaines. Elles préviennent que les récalcitrants subiront la rigueur de la loi. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Depuis l'Ituri, le gouverneur de cette province exprime sa solidarité envers les populations du Nord Kivu face à la crise sécuritaire marquée par l'occupation du M23. Dans un message rendu public hier soir, le général Johnny Luboyan Kachama salue la résilience des populations du Nord Kivu en ces moments difficiles. Par la même occasion, il appelle la population de l'Ituri au calme et à l'unité et à ne pas s'attaquer à la MONUSCO ni aux agences des Nations Unies ou encore aux organisations humanitaires présentes en Ituri. Le message du gouverneur de l'Ituri est lu par son porte-parole, le lieutenant Jun Gongo. Suivez-en l'extrait choisi par Sadiki Aboubakar.
Nous exhortons la population de Bounia et de l'Ituri dans son ensemble à demeurer calme. Rappelons que notre collaboration avec la MONUSCO s'inscrit dans le cadre d'une mutualisation de forces pour rétablir l'autorité de l'État avec l'appui de toutes les agences du système des Nations Unies, afin de faciliter le retour de déplacés dans leur milieu d'origine. Il est donc crucial de ne pas adopter un comportement non républicain à l'endroit de la MONUSCO et les agences du système des Nations Unies. Notre gouvernement travaille en étroite collaboration avec ces derniers pour assurer la protection de civils et de sites de déplacés, organiser des patrouilles des combats mixtes et appuyer le dialogue intercommunautaire et contre toute tentative de déstabilisation de la province de l'Ituri.
Depuis la province de Maïndombe, nous avons appris ce mercredi que des miliciens Mobondo ont mené une attaque dans la nuit de lundi à hier mardi au village Nkomankiro dans le territoire de Kwamout. Selon les témoignages poignants émanant de nos sources, l'incursion a causé d'énormes dégâts matériels, notamment des maisons incendiées, et a fait au moins 13 morts. Le chef de terre de Kimomo, Stanley Libier, déplore la persistance des exactions de cette milice à Kwamout malgré les multiples négociations. Irène Bomaluzolo.
Selon les sources concordantes, c'est vers 3h du matin de mardi que les faits se sont déroulés au village Nkomankiro dans le territoire de Kwamout. Des miliciens Mobondo munis des armes calibre 12 et blanches ont fait leur incursion dans ce village. Ils y ont incendié plusieurs maisons et ont tué au moins 13 civils. Parmi les victimes figurent 3 enseignants qui ont été égorgés avant d'être jetés dans le fleuve Congo. C'est le témoignage d'un chef d'établissement qui évoque aussi la perte tragique de son neveu. Le chef du village voisin de Kimomo qui confirme l'information précise que le capitaine du village Nkomankiro a été tué en premier, ouvrant la voie à une attaque généralisée sur l'ensemble de la localité. Stanley Libi déplore cette insécurité causée par la milice Mobondo.
Les milices Mobondo sont toujours actifs dans les Kwamout. Ils nous manquent parce que à tout moment, il y a une négociation, il y a accord, il y a un terrain d'acheter la guerre. La réalité, c'est une façon de distraire la population, alors que sur le terrain, il n'y a pas une évolution.
L'autorité coutumière signale aussi un déplacement massif des habitants vers Kinshasa via la commune rurale de Maluku. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a déclaré ce mercredi que tout déplacement forcé des Palestiniens serait une injustice à laquelle son pays ne pourrait pas participer. Il s'agit d'un refus sans équivoque à la proposition du président Donald Trump de déplacer les habitants de Gaza en Jordanie et en Égypte. Le dirigeant égyptien a déclaré que les principes intangibles de son pays incluent l'établissement d'un État palestinien et la préservation de ses composantes essentielles, en particulier son peuple et son territoire. Le président américain avait avancé samedi l'idée d'envoyer les habitants de la bande de Gaza en Jordanie et en Égypte afin, selon lui, de faire le ménage dans le territoire palestinien. Sa proposition a déclenché une volée de dénonciations dans le monde arabe et en Europe.
L'invité.
Les acteurs humanitaires présents à Goma alertent la communauté nationale et internationale sur les conditions de vie extrêmement précaires des familles déplacées qui ont trouvé refuge dans différents quartiers de cette ville. Ils ont dû abandonner leurs abris de fortune à la suite de l'offensive du 1-23 contre Goma pour survivre dans des familles d'accueil sans eau ni nourriture, dans une ville sans électricité. Une situation qui fait craindre une augmentation des décès dans les jours à venir. Benjamin Munege, responsable du programme multisectoriel d'aide humanitaire, et l'invité de ce journal. Il s'entretient avec Ronelli Ntibonera.
Monsieur Benjamin Munege, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que les auditeurs de Radio Okapi peuvent retenir de la situation humanitaire à l'instant même à Goma?
On n'a pas une petite organisation pour chercher à savoir au moins ce qu'est devenu les déplacés qui étaient dans les différents sites. Hier, en tant qu'humanitaire, c'est vrai, nous avions effectué une petite ronde vers les axes qui abritaient les déplacés. Mais ce qui est vrai, on était un peu limité dans le mouvement parce qu'il y a eu quelques détonations et il était un peu difficile de continuer la route parce qu'on ne savait pas au moins l'origine de ces coups de balles qui retentissaient au moins dans la zone. Mais hier et dans nos déplacements, nous avions vu au moins des colonnes de familles déplacées qui quittaient les zones où hier il y avait des sites et qui se dirigeaient dans la ville. Et normalement, ils se dirigeaient plus dans des familles d'accueil. Nulle part au niveau de la ville, il y a concentration au moins des déplacés. Ça, on n'a pas.
On sait que à Goma, il y a les camps de Rusayo, les camps de Lushagala, je vais parler même de Kanyaruchinya, ça fait plus de 700 000 personnes. Est-ce que Goma est parvenu à contenir tout ce monde?
Bon, actuellement, en tout cas, vous savez d'abord que Goma aussi n'est pas une si grande ville. Tout s'est déplacé. C'est vrai, ils se sont dirigés dans la ville et la majorité, c'est vrai, sont dans des familles d'accueil. Nous voyons quand nous passons, il y a certains déplacés et des gens de bonne volonté dans la ville, dans certains quartiers, qui accueillent certains ménages, ici 5, 6, 7, 8, 9, 10, ils les accueillent dans leur maison. Ça, au moins, nous pouvons confirmer cela parce que nous les voyons. Et voilà.
On comprend, ce sont des familles d'accueil qui sont là, mais est-ce que vous, en tant qu'acteur humanitaire, vous leur venez en aide? Qu'est-ce qui se passe exactement à Goma?
Quand nous voyons au moins ces ménages déplacés, il y a des gens, certaines familles ici à Goma, qui ne viennent bien sûr en aide en ouvrant seulement la parcelle. Ils entrent, 5, 6, 4 personnes, ils entrent, mais ils sont limités parce que comprenez que ce soit les déplacés et nous-mêmes qui n'avions pas fui au moins cette guerre, à un moment donné, nous serons aussi limités. Comprenez aussi qu'on n'a pas eu l'état matériel aussi à s'organiser, chercher une provision de gauche à droite. Et donc, que ce soit les familles déplacées et les familles qui ont accueilli les déplacés, comprenez qu'à un moment donné, si la situation continue, ça ne sera plus question tout simplement des déplacés qui étaient dans les sites. Et même nous-mêmes, nous serons au moins limités par rapport aux moyens primaires de subsistance. Bon, et dommage aussi, là j'aimerais ajouter, nous en tant qu'humanitaires, avec les réseaux de cellulaires qui est instable actuellement et les réseaux sociaux qui ne fonctionnent pas, on essaie même plus s'organiser au moins et partager les idées dans différents forums, partager les idées et voir qu'est-ce qu'on peut faire dans un premier temps par rapport à cela.
Alors il y avait des clusters humanitaires au nord que vous, on a vu lors des précédents à conflits. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire qu'il y a une organisation ou une coordination de l'aide ou carrément les gens se retrouvent à l'abandon?
Bon, en tout cas c'est l'abandon total, ça il faut être sincère, c'est l'abandon. Pourquoi j'ai dit c'est l'abandon? Parce que si tu étais suffisamment informé par rapport à cela, ils se sont plus déplacés au niveau du Sud Kivu, au niveau de Bukavu. Et ils sont rares ceux qui sont ici. La majorité, en tout cas, se sont déplacés vers la ville voisine.
Qu'est-ce que vous craignez en voyant que toutes ces personnes aujourd'hui se retrouvent sans assistance humanitaire?
Ah, ça sera la deuxième guerre, la guerre des famines maintenant. Ça sera la guerre des famines parce que je dirais que, entre guillemets, la population, en tout cas, est abandonnée dans ce sens-là.
Benjamin Mounegue, je rappelle que vous êtes responsable de l'organisation Programme Multisectoriel d'Aide Humanitaire. Radio Okapi vous remercie.
En tout cas, nous remercions Radio Okapi et bonne suite.
Merci aussi à vous tous qui avez suivi ce journal qui arrive à sa fin. À la présentation, c'était Noëlla Luzitu Kabambi. La mise en onde est signée Pierre Diassinois. La coordination et la supervision étaient assurées par Alain Irongo Mushinge. Notez qu'à 19h heure de Kinshasa, il y aura un autre rendez-vous, à savoir la synthèse de l'actualité de ce soir sur Radio Capitale.